Mana Ono, salam. Je suis Simbak et vous écoutez actuellement le podcast Malabar. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Maïe Rami Prod, qui a monté ce nouvel épisode. Entrepreneur basé en France, il est disponible pour vous accompagner dans tous vos projets vidéo et photo. Retrouvez ses contacts dans le lien de l'épisode. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la veine de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Alors pour suivre toute l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur malabar.fr ou à suivre notre Instagram. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec mon invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dipsou Rafour. Dipsou a décidé de se reconvertir et il le dit à maintes reprises dans l'épisode. Il veut faire ce qu'il aime. Et qu'est-ce qu'il aime ? La photo. Photographier, c'est sa passion. Pour une fois, je ne vous en dis pas plus dans l'introduction parce que Dipsou se présente très bien et qu'il n'y a aucune autre personne qui peut mieux le présenter que lui. Un conseil, si vous souhaitez vous marier à Madagascar, faites un tour sur son site. Je vous le mets dans les notes de l'épisode. Je laisse place désormais à ma discussion avec Dipsou. Bonne écoute.
Bonjour Dipsou, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va bien et toi ?
Oui, ça va très bien, merci. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc, comme je t'ai expliqué, on va être ensemble pour partager ton expérience, pour que tu nous parles de ton entreprise et de ton parcours aux auditeurs. Donc déjà, je vais te laisser te présenter pour qu'on puisse en connaître un peu plus sur toi.
D'accord. Donc, je m'appelle Dipsou Rafour, j'ai 38 ans et mon parcours, en fait, il est assez atypique parce que j'ai une formation d'ingénieur des mines de l'école supérieure polytechnique d'Antananarivo. Et après, j'ai poursuivi mes études à l'IAE de Nancy, par un master en administration des entreprises. Et puis après, je suis retourné à Madagascar en 2012 et j'ai travaillé pendant une année dans une entreprise. Après, j'ai décidé de changer vraiment d'orientation parce que j'avais une passion en fait qui était la photographie et j'avais envie vraiment de vivre de ma passion. Déjà, c'est une chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc, en 2014, je suis passé vraiment professionnel en photographie. Voilà. Donc, après, en 2018, j'ai vu que j'étais déjà dans le domaine là de la photographie, là du mariage et tout ça, j'ai décidé de faire une extension d'activité avec la création de Wedding Studio Madagascar.
D'accord. Donc, voilà. Ça fait effectivement, ça fait un parcours assez atypique, comme tu le dis.
Atypique.
Oui. Pour reprendre un peu du début, donc toi, t'es né, t'as grandi à Madagascar, jusqu'à ton master où t'es allé à Nancy. T'étais à Madagascar durant toute ta scolarité, c'est ça ?
Oui, j'étais à Madagascar durant toute ma scolarité. Ce n'est qu'en 2009 que je suis venu en France pour suivre mes études.
D'accord. Et quand tu es allé en France, comment ça s'est passé ? C'était ton premier séjour vraiment long terme. Tu es resté à peu près 3 ans et demi, si je me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Comment ça s'est passé, tes études en France, ton intégration, l'adaptation ? Parle-nous un peu de cette expérience.
C'est toujours une chose assez... C'est une chose magnifique déjà de pouvoir voir d'autres horizons. Ça n'a pas été facile là au début. Ça, c'est toujours commun à toutes les nouvelles expériences. Mais ça s'est super bien passé. J'ai eu mon master à la fin, donc c'est ça l'essentiel. C'était l'essentiel pour moi.
Tout à fait. Mais t'as décidé de rentrer à Mada. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui restent, il y en a qui se disent en partant de Mada, non mais j'y vais juste pour les études et je reviendrai et qui ne reviennent pas. Il y en a qui rentrent à Mada comme toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer, ou alors est-ce que tu étais obligé de rentrer?
En fait, je suis vraiment un grand amoureux de mon pays. Ça, c'est une chose. Mmh. Et par-dessus tout, j'aimerais bien apporter ma pièce à l'édifice. Donc, vraiment, faire quelque chose pour mon pays, ça, c'est une chose vraiment qui me tient à cœur. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai fait le grand pas de revenir.
Et donc, quand tu es rentré, tu savais déjà que tu allais fonder une entreprise, ou parce que tu as d'abord été salarié? Est-ce que tu savais que c'était pour du court terme?
Oui, je savais que c'était pour du court terme parce que j'avais déjà vraiment cette idée en tête. Parce que c'était vraiment pour ça que j'avais fait en fait mon master en administration des entreprises. Parce que vu que j'avais une formation là en ingénieur des mines, c'était pas vraiment dans le domaine du management ou de l'administration de l'entreprise. Mais c'était vraiment mon but en fait de faire ce master-là pour que je puisse avoir des acquis sur l'entreprise, déjà savoir comment ça se passe pour une entreprise, comment sont les grands points de fond d'une entreprise. Voilà.
D'accord. Et la photo dans tout ça, ça a commencé, mm-hmm. tu l'as dit, en 2011.
Oui.
Donc, c'était en France que ta passion est
apparue. C'était en France, oui.
Et raconte-nous alors comment était ton premier contact avec la photographie, qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureux du coup de cette activité.
En fait, je suivais de près des photographes déjà et quand je voyais leurs photos, j'étais tout de suite tombé dans le charme. Il y a Pierre Romain, par exemple, c'est un photographe malgache, je pense que c'est celui qui est le plus reconnu là pour Madagascar. Il y a aussi Jean-Baptiste Mondino, c'est quelqu'un qui prend des photos de mode pour des magazines qui sont assez vus dans le monde de la mode. Et donc c'est pour ça que je m'intéressais beaucoup à ce domaine-là, parce que j'aime bien ce qu'ils font. Et du coup, j'ai acheté un réflexe pour pouvoir réessayer de refaire ce qu'ils font déjà pour commencer.
Donc du coup, tu étais autodidacte, tu as commencé tout seul, t'as pas
oui,
eu de...
Je suis autodidacte en photographie. En fait, je suis assez curieux, donc je regarde tout sur Internet, je me documente et puis j'essaie des trucs, voilà.
Mais c'est génial, non mais c'est très bien parce que aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, tu vois, de pouvoir admirer, comme tu dis, les différents photographes à travers les plateformes. YouTube aussi, j'imagine que c'est quelque chose que tu regardes souvent, et ça c'est top parce que ça nous permet d'apprendre. Et donc du coup tu rentres à Mada, tu travailles pour l'entreprise, mm-hmm. comme tu nous l'as dit, et du coup toi c'était vraiment dans un objectif d'apprendre pour toi finalement.
Oui, c'est vraiment cela. Et en fait l'entreprise là là où j'avais travaillé, c'était vraiment dans le domaine technique. Je suis revenu un petit peu avec mon parcours ingénieur, et j'ai vu que être dans un bureau cloîtré comme ça, c'était pas trop mon truc. Donc j'ai vraiment pris la décision là de changer de cap et de vraiment faire un truc pour moi.
Voilà. D'accord. Et comment ça se passe aujourd'hui? Comment tu te sens? On parlera bien sûr après du Covid. Mais toi aujourd'hui, comment tu te sens en étant photographe et en même temps fondateur de Wedding Studio? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es épanoui dans cette vie?
Oui, je suis épanoui. Parce que je fais en fait l'essentiel, c'est qu'on fait ce qu'on aime. C'est ça la base, quoi. Si on ne fait pas ce qu'on aime, on n'est pas épanoui. Bah forcément on n'est pas épanoui. Voilà.
Tout à fait. Non, je suis totalement d'accord. Et du coup, concernant 2014, tu décides de sauter le pas, tu te lances pour la photographie. Comment se passent les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois de ton activité? Quelles ont été les différentes étapes?
En fait, entre 2012 et 2014, vu que j'avais déjà acquis plusieurs expériences, je faisais des mariages gratuitement, je faisais là des prestations gratuites pour apprendre déjà pour comment ça se passe. Voilà, il faut donner de son temps et soi-même aussi pour pouvoir prendre un élan pour pouvoir se lancer après. Donc après, en 2014, il y a déjà les bouches à oreille qui commencent un petit peu à passer. Donc j'ai commencé ben l'activité par des couvertures de photos de mariage, et puis après ça s'est fait de fil en aiguille pour faire des prestations pour des entreprises et tout ça.
D'accord. Et voilà. En 2014, le marché de la photographie à Mada, il était comment? Parce que aujourd'hui il y a beaucoup de photographes un peu partout. Est-ce qu'il y avait déjà à cette époque beaucoup de photographes? Est-ce que c'était un marché assez accessible? Comment était le marché à cette époque?
En fait, il y a toujours beaucoup de photographes. C'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup de photographes, mais il faut, comme toute activité, dans un marché, il faut savoir tirer son épingle du jeu. Il faut se différencier de ce que proposent les autres. C'est comme toute activité, quoi. Si on veut percer dans une activité, il faut vraiment trouver une différenciation par rapport à ce que proposent les autres.
Et toi, du coup, forcément, je vais rebondir dessus. Quelle est ta différenciation? Comment tu te différencies de tes concurrents?
Ben déjà, il faut être professionnel dans ce qu'on fait, parce que malheureusement, ça, ce sont des choses qui ne s'apprennent pas, mais il faut vraiment que tu fasses sérieusement ce que tu as à faire. Ça, c'est un problème que je trouve typique ici à Madagascar, c'est que au niveau de professionnalisme, il faut vraiment, il y a beaucoup encore à faire sur ce sujet-là. Déjà, ça, c'est un point. Et puis après, au niveau de la qualité de service aussi, ça, ce sont des choses. Mais il y a aussi le côté vraiment photographie. Il faut en fait que tu répondes là aux attentes des clients qui cherchent un truc bien. Parce que c'est comme une activité où quelqu'un achète, et donc si tu ne réponds pas à leur demande, et pourtant ils payent, et là tu vas te retrouver vite fait tout seul, parce que il y aura plus de clients après qui va te contacter.
D'accord.
Voilà.
Et donc de 2014 à 2018, t'es que entre guillemets photographe. Qu'est-ce qui te fait sauter le pas en 2018 pour te tourner aussi vers Wedding Studio? Est-ce que c'est un besoin que t'as vu du marché? Est-ce que c'est toi qui as voulu compléter tes offres? Comment t'as fait pour créer Wedding Studio?
En fait, j'ai vu qu'en fait qu'il y avait une opportunité, parce que j'avais vu que parce que j'avais des contacts en France, j'avais des amis qui étaient là-bas, qui venaient faire leur mariage ici en Madagascar, et du coup en fait ceux d'en France, ils n'avaient pas une plateforme visible pour l'organisation du mariage à Madagascar. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de créer une plateforme weddingstudio.net. J'avais fait là un site web pour qu'ils puissent vraiment avoir une sorte de salon de mariage en ligne, donc pour qu'ils puissent avoir une visibilité là à des prestataires déjà qui sont présents à Madagascar, puisque dans mon site web, il y a en fait tous les prestataires environ de tout ce qui se fait dans le mariage. Donc il y a des décorateurs, il y a les salles de réception, il y a à peu près tout, il y a tous les prestataires. Donc on peut le voir directement via de la France, tous les prestataires qui sont présents à Madagascar en majorité.
Et pourquoi tu t'es attaqué forcément aux malgaches ou autres qui n'habitent pas à Mada, mais pas aux locaux?
Non, je suis ouvert en fait à là aux locaux, mais c'est par rapport là aux amis qui étaient venus vraiment là de France, qui y avait un réel besoin vraiment d'avoir une visibilité sur sur comment organiser un mariage là à Madagascar, vu qu'ils étaient à 10 000 km, donc c'était juste pour ça que j'avais créé Wedding Studio. Mais là, au final, nous avons des demandes là de clients qui sont sur place, donc tout se passe bien.
Voilà. D'accord, d'accord, super. Et du coup, tu l'as créé en 2018, 2020, on le sait tous, le Covid est passé. Ouais. Est-ce que tu as vu un avant et un après dans ton activité, ou alors l'entreprise était beaucoup trop jeune et du coup, tu n'as pas eu le temps de stabiliser un peu ton business?
Là, du coup, pour 2020, c'était vraiment chaud parce que là, on sait tous avec le Covid, vu que c'est principalement de l'événementiel, ça n'a pas très très bien marché. Et là, on est depuis 2021, on commence vraiment à vraiment faire un petit peu de retour sur le marché. Donc là, on n'a pas vraiment eu le temps encore de bien stabiliser, de voir comment ça se passait. Mais ce qui est positif, c'est que nous sommes en pleine croissance. Voilà.
D'accord, d'accord, super. Et aujourd'hui, Wedding Studio, vous êtes combien ? Parle-nous un peu de tes ressources humaines.
En fait, pour les métiers support, donc ce qui sont des salariés fixes, on est 4. Mais quand il y a quand on organise en fait les mariages, en fait, il faut que nous faisons appel à des prestataires externes déjà, du personnel externe pour pouvoir pallier à l'organisation d'un mariage. Et là, du coup, on peut monter 6, on peut monter jusqu'à 10, selon en fait là les demandes et l'ampleur de l'événement.
Et tes salariés fixes, ils couvrent quelle activité au quotidien?
Les salariés fixes de l'Ado Wedding Studio?
Oui.
Ah, c'est l'activité, en fait. C'est l'activité qui nous permet, en fait, de couvrir ça.
Et ils font quoi? Ils font du démarchage, ils s'occupent de chercher des prestataires avec qui vous allez travailler, ils s'occupent des réseaux sociaux, du site. Ils font quoi au quotidien?
Mais en fait, là, on s'occupe déjà là du site, là de répondre là quotidiennement aux demandes pour les demandes de devis. Et on s'occupe aussi de faire un petit peu de publicité sur place parce qu'en fait le site il fait déjà là sa propre publicité là concernant ceux qui sont à l'extérieur. Mais sur place on essaie vraiment de nous faire connaître sur place. Donc, ça se résume un petit peu à ça pour ceux qui travaillent ici en fixe.
Et quand tu dis faire de la publicité sur place, comment vous faites votre publicité?
Là, on avait déjà fait du porte-à-porte. On en a déjà fait. Mm-hmm. On a déjà fait. Et puis, on participe aussi à par exemple, comme les salons de mariage ou les choses comme ça, pour pouvoir être un petit peu visible ici sur place.
Et vous faites un peu de, là c'est un peu la marketeuse qui va te parler, mais est-ce que vous faites un peu de publicité payante sur les plateformes, du Google Ads, sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple, qui fonctionne très bien à Mada? Est-ce que vous en faites un peu ou pas du tout? Tout ce qui est digital, tu le fais pas encore?
Oui, on le fait parce que moi je le fais déjà avec mon activité de photographe. Ça, je le faisais déjà. Donc on commence un petit peu à le faire aussi avec Wedding Studio.
D'accord. Donc tu as une partie de ton budget quand même qui est consacrée. Juste un peu de curiosité, mais tu me diras si tu veux pas qu'on le rende public. C'est à peu près quoi le budget que tu consacres à tes ads?
Là, on est à peu près 50 euros par mois, à peu près.
D'accord, ok, parfait. Et concernant les personnes qui travaillent avec toi, est-ce que ce sont que des Malgaches qui ont étudié aussi à Madagascar ou des gens qui viennent d'ailleurs? Parle-nous un peu des profils.
En fait, ce sont tous des Malgaches. Ils ont tous étudié ici.
Est-ce que pour toi, c'était important que ce soit des Malgaches ou tu l'as pas du tout considéré? Tu as juste pris des gens qui étaient talentueux pour les missions que tu recherchais?
Mais en fait, les deux. Ben, on cherche les deux. Hein. Si on peut faire les deux, donc c'est vraiment génial parce que déjà, tu crées de la richesse, tu crées de la valeur, tu emploies des personnes qui sont sur place. Donc ça, pour moi, c'est une chose essentielle dans la manière de gérer mon entreprise.
Et justement, là, tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu es vraiment amoureux de ton pays. Là, tu me parles de créer de la valeur. J'ai beaucoup d'invités qui me parlent de ce sentiment d'amour qu'on a pour son pays. Tu penses que ça vient d'où, d'être vraiment attaché à Mada, de vouloir retourner à Madagascar, de vouloir créer quelque chose pour apporter de la valeur au pays? Tu penses que ça vient d'où?
Ben, je pense que c'est un sentiment tout à fait normal pour quelqu'un qui s'attache à son pays, parce que j'ai passé toute ma jeunesse ici à Madagascar. J'aime bien, même si c'est difficile, même s'il y a des choses qui ne sont pas belles ici. Je pense que c'est culturel, ou c'est vraiment parce que c'est notre propre identité, hein. C'est notre racine identitaire par rapport aux autres, donc c'est vraiment ça.
Et du coup, est-ce que tu penses que ça vient de l'éducation? Est-ce que tu penses que ça c'est intrinsèque, c'est en nous, on est malgache et on veut faire grandir Madagascar? Est-ce que tu penses que c'est la situation du pays? En fait, j'essaie de comprendre parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup voyagé. Je suis pas forcément attachée à un pays plus qu'un autre. J'ai eu des expériences différentes, mais c'est vrai que Madagascar, même si j'y suis allée qu'une fois, reste quand même mon pays d'origine. Et tu vois, je m'intéresse beaucoup à la culture malgache. Je parle malgache. Pour moi, c'est important de s'intéresser à ça parce que mes parents, mes grands-parents étaient à Madagascar. Mais tu vois, généralement, avec les invités que j'ai eus, il y a une attache vraiment amoureuse, en fait, avec Madagascar. Oui, et je me demande, est-ce que la situation du pays joue aussi dans le fait qu'on ait envie, en fait, de relever le pays et de se dire, OK, en fait, si j'y vais pas, bah personne va le faire. Donc, il faut que je le fasse moi.
Il faut essayer de... il faut essayer d'apporter sa petite contribution, parce que Madagascar, c'est quand même un beau pays, hein. C'est quand même, moi je trouve que c'est un beau pays. Il y a encore beaucoup à faire. Moi, quand je regarde tout ce qui se passe ici, il y a tout, mais il y a juste il manque juste beaucoup de volonté pour vraiment créer quelque chose ici à Madagascar, parce que tout est à faire, hein. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup d'investisseurs qui voulaient venir à Madagascar, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal qui veulent venir vraiment faire des choses ici. Là, tant qu'à faire, pourquoi ce ne sont pas nous, malgaches, qui le faisons? Parce que pourquoi les autres, ils veulent venir ici? Parce qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Il y a tout à faire.
Oui. Et toi, voilà. Quand tu étais à Nancy, justement, tu as rencontré des malgaches qui étaient installés en France et qui comptaient pas revenir au pays?
Il y en a qui sont déjà bien installés, qui ont déjà leur boulot, qui ont déjà des enfants. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils sont restés. Oui, j'ai rencontré.
Et généralement, les arguments qu'on t'avance, parce que c'est pareil, on dit toujours, enfin, toujours non, mais j'ai plusieurs invités qui me l'ont dit, qu'il faut que la diaspora rentre, sinon on ne pourra pas relever le pays parce qu'on a une pénurie de compétences, il faut qu'on change les mentalités, il faut qu'on apporte de la valeur. Et en fait, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui ont été éduqués, qui ont travaillé à l'étranger et qui ont beaucoup à apporter au pays. Les Français que tu as rencontrés, enfin les Malgaches qui ont peut-être la nationalité française, en France, les arguments qu'ils avancent pour ne pas rentrer, ce sont lesquels?
La politique déjà, et puis la conjoncture, c'est forcément lié à la politique. Ils ont peur de, ben de ça. Et je me mets à leur place. Ils sont déjà assez stables chez eux. Faire le pas aussi, ce n'est pas une chose, assez facile. Je ne mentirai pas que lorsque j'étais revenu et en voyant toutes les difficultés qui s'opposent lorsqu'on crée quelque chose ici, je pense que ce n'est pas facile en fait de le faire, mais il faut qu'on aime vraiment le truc pour pouvoir vraiment faire quelque chose, quoi. Voilà. Il faut persévérer dans ce qu'on aime, et voilà.
D'accord. Écoute, merci beaucoup Ndimsou. Pour terminer, je vais te poser trois petites questions. La première, on y a déjà un peu répondu, mais j'aimerais que tu m'y répondes en deux minutes. Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui à Madagascar?
Ce qui me retient à Madagascar, c'est presque toute ma vie. Je suis malgache et j'aime bien ce que je fais ici. Je m'épanouis, je fais ce que j'aime. Donc voilà, c'est ce qui me retient.
D'accord. Quels sont tes conseils pour avoir une vie épanouie à Madagascar? Donc là, ça peut être les conseils à tes amis que tu as rencontrés en France, qui habitent toujours en France et qui ne veulent pas venir à Mada. Ça peut être aussi des arguments que tu adresses à des jeunes générations qui n'ont pas forcément vécu à Madagascar, mais qui ont envie d'y aller.
Donc, il faut déjà, la première chose, moi je le répète toujours, il faut faire vraiment une activité qu'on aime. C'est ça la première. C'est ça le premier truc en fait. Pour vraiment, parce que les difficultés, il y en a toujours, même là-bas ou même ici à Madagascar. Et je pense qu'ici, c'est un peu plus compliqué que dans d'autres pays. Mais si vraiment on aime bien ce qu'on fait, on a la force de persévérer là dans l'activité, ce qu'on fait. Voilà.
On le voit avec toi qui a été frappé de plein fouet par le Covid et qui continue. Donc ça veut dire que tu es vraiment un passionné de ton activité, non?
Oui, c'est cela.
Non, mais c'est bien, c'est très bien. Et la dernière question, c'est si tu avais quelque chose à partager, un sujet dont on n'a pas parlé, que tu aimerais aborder, ou un message que tu veux adresser aux auditeurs.
D'accord. Faites ce que vous aimez. Ça rejoint toujours ce que j'ai dit. Faites ce que vous aimez.
D'accord.
Ça, c'est l'essentiel. Voilà.
Pour être heureux, il faut faire ce qu'on aime, quoi.
Voilà.
Super. Écoute, merci beaucoup, Ndimsou. Dans les notes de l'épisode, je mettrai le lien vers ton site, Wedding Studio. Et puis,
D'accord.
En attendant, on te souhaite une très bonne continuation. Et puis, on se dit à bientôt.
Ça y est, l'épisode est terminé et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur le site malabar.fr ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Malabar est toujours à la recherche d'expériences insolites. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même souhaitez partager votre histoire sur Malabar, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode de Malabar.